Bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast dans lequel j'échange chaque semaine avec une personne inspirante qui est devenue libre selon sa propre définition grâce au code. Aujourd'hui, je reçois Grégoire, fondateur de Co-op, une startup qui permet aux freelances et entrepreneurs qui bossent généralement de chez eux de se rencontrer et de travailler ensemble. Mais Grégoire a plusieurs casquettes, il est aussi freelance, multi-entrepreneur et no-codeur. On reviendra en détail sur toutes ses activités durant cet épisode. Grégoire va donc nous raconter ses débuts dans le monde du code, comment il a fait pour apprendre la programmation, mais il nous racontera aussi ses différentes expériences qu'il a eues, comme son job chez Ubisoft à Montréal, la création d'une application au tout début de l'App Store en 2008, ou encore sa startup Co-op qu'il gère aujourd'hui. Donc si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en donnant votre avis sur Apple Podcast, et en attendant, moi je vous laisse apprécier mon échange passionnant avec Grégoire. Salut Grégoire, merci d'avoir accepté l'invitation à ce podcast. Avant qu'on rentre dans des discussions un peu poussées, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, nous dire en quelques lignes qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui ?
Salut Quentin, merci beaucoup pour l'invitation, je suis hyper content de pouvoir discuter avec toi. C'est un peu compliqué de me présenter parce que je pense, comme beaucoup de personnes que tu as interviewées dans ce podcast, je touche un peu à tout. J'ai regardé la définition du terme slasher justement avant d'enregistrer pour savoir si je rentrais bien dans cette catégorie, mais je dirais que je suis peut-être un peu là-dedans parce que je suis à la fois entrepreneur, je suis freelance en product management, je suis aussi no-codeur depuis maintenant un peu plus d'un an et demi, et j'ai commencé des premières missions en tant que no-codeur, et donc je pense que c'est un peu tout ça. J'arrive pas à choisir en fait entre tous, donc je fais un peu des trois.
Ok, ben c'est bien. C'est ce qui fait la diversité, puis surtout la particularité de ton profil. Alors, on a plein de choses à aborder dans cet épisode. Déjà, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu aujourd'hui ton quotidien ? Alors, soit une journée type, mais je sais qu'une journée type, c'est assez difficile de la décrire parce qu'il n'y a pas vraiment de journée type quand on a un profil comme le tien. Peut-être une semaine type ?
Journée type. Alors justement, ça risque un peu de casser le mythe du freelance ou du slasher. En fait, j'ai des journées assez classiques. Je me cadre à pas mal parce que vu que je travaille de la maison la plupart du temps et que je peux avoir un peu une bonne tendance à procrastiner, du coup, en fait... Je sais que le matin, je suis beaucoup plus efficace, donc en fait, je me lève assez tôt. Ma copine se lève un peu plus tard, donc j'en profite pour avoir mon moment à moi, me poser en bas avec mon ordi, prendre mon petit café. Et en fait, je travaille peut-être sur la chose la plus difficile à faire dans la journée dès le matin, parce que c'est là où j'ai le plus de motivation. Et pour tout te dire, en fait, je travaille vraiment assez efficacement jusqu'à midi. En gros, je coupe mon portable, je coupe toutes les notifications et je travaille sur les sujets les plus importants jusqu'à midi. Et après, justement, après le déjeuner, je suis peut-être un peu moins efficace comme tout le monde. Donc, je profite de l'après-midi pour tout ce qui est les activités un peu plus sociales. Donc, soit faire des Zooms, soit répondre à des emails ou soit faire justement des tâches un peu plus légères. Après, si on parle en tant que semaine, justement, en fait, ça dépend complètement si j'ai une mission. Ce que j'ai essayé de faire, justement, ces dernières années, c'est pas d'accepter des missions à plein temps pour avoir un peu plus de temps pour mes projets. Donc, soit c'est une journée ou deux sur mes missions avec mes clients, et puis après, le reste de la semaine sur mes différents projets. Ce que je faisais avant, justement, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Ce que je faisais avant, c'est que en fait, j'assignais quelques heures dans ma journée pour chacun de mes projets. Donc, par exemple, 2-3 heures pour mon client, 2-3 heures pour ma newsletter et après le reste du temps pour Co-op. Et en fait, je me rendais compte que j'étais pas du tout efficace parce que ça me forçait en fait à mettre mon cerveau sur tous ces projets pendant la journée. Donc, j'étais pas très efficace pour chacun des projets. Et ce que je commence à faire beaucoup plus maintenant, c'est justement plus assigner des journées. Comme ça, je sais que aujourd'hui, je travaille à fond pour Co-op et du coup, vraiment, je me ferme complètement à toutes les autres activités et je reste concentré complètement sur Co-op. Donc maintenant, je le fais plus par journée. 2 journées pour mon client, 2 journées pour Co-op, 1 journée pour mes newsletters.
Ok, et en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu nous dis là, c'est que quand tu décris ta semaine, tu la décris plus en termes de type d'activité. Tu nous dis le matin, c'est tout ce qui demande beaucoup quand même de concentration, et au fur et à mesure de la journée, tu perds en énergie, en concentration, et du coup, tu places les interactions sociales, l'école, les rendez-vous, tout ça l'après-midi. Mais ce qui est intéressant là-dedans, en fait, c'est que ce framework, ce modèle de journée, il peut être calé aussi bien pour une journée où tu travailles sur ton entreprise qui est coop, ou pour un client, a priori.
Oui, complètement. C'est exactement ce que je fais. Et puis, vu qu'on est quand même sur un podcast de développeurs, en fait, le matin, justement, je fais tout ce qui est justement développement. Donc, moi, c'est principalement du no-code, mais je passe beaucoup de temps le matin sur mon backlog et ce que j'ai à faire, soit sur Bubble, soit sur Webflow. Et après, justement, vu que je suis quelqu'un plutôt d'introverti, je pourrais passer la journée à faire ça et puis me rendre compte à la fin de la journée que j'ai bien avancé dans mon backlog, mais finalement, c'est pas ce qui est le plus important pour mes utilisateurs. Donc je fais exprès de peut-être m'assigner par exemple 2-3 heures le matin pour du bubble et j'en fais pas plus. Et après je me force à faire des trucs un peu plus social, oui.
Ok, top. Donc on va revenir un peu après hein, sur tous ces outils-là qui sont bubble et tous les outils de no-code, et on pourra revenir plus en détail dans une deuxième partie de cet épisode sur tout cet aspect no-code. Déjà, tu pourrais nous faire un petit retour sur ton début de carrière, éventuellement même remonter jusqu'à tes études, pour comprendre un peu pourquoi tu en es arrivé là aujourd'hui à faire à la fois du freelance et à monter ton entreprise.
Alors on peut remonter, je pense, assez loin. Ce qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui je suis pas vraiment un développeur comme on peut le dire, mais en fait quand j'ai commencé au tout début, c'était peut-être à 13 ans, où en fait on avait... le premier iMac à la maison, et mon père ramène un jour un CD, je sais pas si tu te souviens, les CD AOL où il y avait marqué Internet dessus, et puis il le met dans l'ordi et il m'appelle, il dit viens voir Grégoire, je vais te présenter quelque chose, ça s'appelle l'Internet, et en fait il m'ouvre un dossier avec des fichiers dedans, et ça c'était l'Internet. Et petit à petit j'ai découvert ce que c'était Internet et j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Et en fait, ce qui était assez intéressant sur ces CD, c'est qu'il y avait aussi des versions gratuites de Dreamweaver. Donc, je ne sais pas si tu te souviens de cet outil qui nous permettait justement de faire des sites en WYSIWYG. Et à l'époque, c'était complètement fou. C'était vraiment quand même le début de l'Internet public. Et en fait, petit à petit, donc, je commençais à faire du Dreamweaver sur l'ordinateur de mes parents. Je commençais à faire les premiers sites. Et ils ont vu mon engouement pour ça. Donc, j'ai eu droit à un ordinateur... pour un de mes anniversaires, et finalement je passais ma journée dans ma chambre à explorer Internet et à faire des sites, à imaginer plein d'idées de business. Donc je pense plein d'idées de business qui tombaient à l'eau assez rapidement, mais ça m'avait poussé à apprendre le JavaScript, à acheter des livres sur le PHP, sur l'ActionScript, donc c'était Flash à l'époque, les bases de données, etc. Donc je m'achetais des gros bouquins pour apprendre le code, donc c'était assez fou. Et pour moi, ça donnait accès à un monde assez extraordinaire, en fait. J'habitais à la campagne, dans le sud de la France. J'avais quand même mes potes du village, mais quand je rentrais chez moi, en fait, j'arrivais dans un monde complètement fou, qui était l'Internet, où tu pouvais aller dans le monde entier. Donc c'est parti un peu comme ça. Après, ma carrière a un peu changé du tout au tout, parce que juste après mon bac, j'ai fait une licence en hôtellerie-restauration. Après ça, vu que j'avais un esprit quand même assez entrepreneurial, j'avais monté une première app, donc c'était en 2008, au tout début de l'App Store, sur la livraison d'apéritifs à domicile. Donc où que tu sois en France, en fait, je te mettais en contact avec des sociétés qui pouvaient te livrer l'apéro où tu étais. Et j'ai fait un master en école de commerce assez classique. Après ça, j'ai été embauché par Ubisoft à Montréal. Donc c'était une période assez cool pendant 3-4 ans à Montréal où je bossais sur tous les gros jeux vidéo d'Ubisoft. Et en fait j'avais toujours cette fibre entrepreneuriale qui me collait à la peau, donc j'ai monté une start-up quand j'étais à Montréal avec deux développeurs assez seniors et c'est là-bas que j'ai pas mal appris tout ce qui est product management, growth hacking, etc. Et quand je suis rentré en France, j'ai été embauché par Tiga, qui est une agence de product management et qui avait besoin justement de faire grossir son équipe de growth hacking, et donc et j'ai commencé là-dedans. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait le terme de growth hacking était pas mal galvaudé en France parce que les gens voyaient que de l'acquisition un peu pourrie où tu t'allais sur LinkedIn, sur Instagram, et t'essayais de scraper tous les profils des gens et tu leur envoyais des fake mails personnalisés. Et du coup, ça m'avait un peu dégoûté du gros hacking, et je me suis rendu compte que moi, ce qui m'intéressait, c'était justement plus tout ce qui est growth, mais au niveau du produit, donc tout ce qui est activation, rétention. Donc comment tu fais un produit qui soit mieux, comment tu fais une expérience utilisateur bien meilleure pour qu'en fait toute l'acquisition de ton produit se fasse par le produit lui-même. Donc j'ai fait ça pendant un an chez Tiga. Malheureusement, vu que c'est une agence, eux ils cherchent les plus gros TJM et ceux qui sont prêts à payer ces plus gros TJM, c'est les banques, les assurances, etc. Donc moi, c'est pas vraiment des mondes qui m'intéressaient énormément, donc je suis passé freelance. Donc c'était il y a 3 ans, et freelance en product management, en gros hacking, et il y a un an et demi, j'ai monté Co-op, parce que j'étais parti du constat en fait qu'il n'y avait rien qui était fait pour que les gens comme nous, les slasheurs, les indépendants, les entrepreneurs, puissent se rencontrer et travailler ensemble. Donc l'idée, c'était vraiment de permettre à ces gens de se rencontrer ensemble dans des sessions de coworking chez l'habitant. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment appris à faire du no-code, parce que moi, je suis très dans la philosophie Lean Startup. Donc dès que tu as une idée de produit, dès que tu as une idée de boîte, il faut la sortir tout de suite pour la confronter au marché. Et donc, j'ai dû lancer mes premières sessions co-op il y a un an et demi. Et pour ça, j'avais lancé mon premier site sur Webflow.
D'accord. Ok, donc Webflow, bon, je pense qu'on commence à en entendre parler un peu partout. Mais voilà, en gros, c'est un outil qui permet de faire des sites web sans vraiment savoir coder, même si je pense qu'on en reviendra, dessus après. Mais il faut quand même avoir une certaine, peut-être pas expérience en tant que développeur, mais en tout cas, il y a des compétences communes qu'il faut avoir entre un développeur et quelqu'un qui gère bien du Webflow, quoi.
Bah, c'est vrai que Webflow est pas mal basé sur l'HTML et CSS. Donc en fait, c'est vrai que si tu connais pas mal le CSS, c'est vraiment très facile pour toi. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont fait un retour sur Webflow. Ils sont arrivés devant la page blanche et en fait, ils ont eu le syndrome de la page blanche, mais pour Webflow. Et pendant des mois, ils savaient pas quoi faire. Et du coup, c'est vrai que si tu as des... Bah, déjà, il faut que, justement, comme tu dis, que tu aies une certaine connaissance en dev et surtout, je pense aussi un peu en design et savoir comment un site internet fonctionne pour vraiment commencer à t'amuser sur Webflow. Et je crois que c'est peut-être Shubham ou Alexis qui le disait dans un de tes précédents épisodes, mais c'est vrai que ceux qui gèrent le plus Webflow aujourd'hui, c'est des UI designers. Donc, c'est des gens qui ont vraiment une fibre en design. Et Webflow leur permet justement de créer des sites sans avoir besoin d'une équipe de développeurs.
Ouais, c'est ça. Comme on disait avec Shubham, effectivement, ce qui est du Webflow ou alors du HTML, CSS et JavaScript, c'est un outil. Et après, il faut savoir comment construire quelque chose, en l'occurrence construire un site web. Et après, l'outil, bon, bah, c'est juste ce qui vient, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ça. C'est ce que tu utilises pour construire ton projet. Mais pour construire le projet, bah, il faut savoir comment le structurer, comment l'organiser et justement comment le peindre, entre guillemets, comment l'emballer avec tout ce qui est UI design, quoi.
Ouais, on est complètement d'accord. Et du coup, ça veut dire que le no-code, en fait, c'est pas accessible à tout le monde, même si on essaie de crier ça sur tous les toits.
Et donc, t'as quand même un background assez impressionnant, assez fort en tant que développeur. Comment est-ce que t'as acquis tes compétences ? Donc, si dans un premier temps, on reste que dans les compétences vraiment techniques, où là, on parle vraiment de code. Comment est-ce que t'as acquis la plupart de ces compétences ?
Et ben du coup, vu que c'était quand j'avais 13-14 ans, donc si je me souviens bien, c'était au début des années 2000, donc justement quand c'était un peu la bulle d'Internet. Et à l'époque, vraiment, les connaissances étaient sur c'était des bouquins en fait, des bouquins qui faisaient 300-400 pages. C'est drôle qu'on en parle aujourd'hui, c'est un peu rédhibitoire parce que vraiment en fait, tu lisais le bouquin, t'avais des morceaux de code dans le bouquin. Je sais pas si aujourd'hui je le ferai encore. L'autre jour, j'étais justement chez mes parents et j'ai vu qu'il y avait encore ces bouquins, je les ai ouverts et c'est assez drôle à voir. Et après, peut-être il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à m'y remettre, J'ai commencé à m'y remettre sur Code Academy, donc je pense c'est quelque chose que les gens connaissent bien. Ça te permet d'avoir des petits cours et justement tu avais des exercices tout de suite qui te permettaient en fait de vraiment assimiler ce que tu apprenais en code. Et il y avait même à l'époque une start-up qui s'appelait Code School et qui était comme du Code Academy, tu payais 20 € par mois et c'était vraiment poussé parce que ce qui était vachement intéressant, contrairement à Code Academy, c'est que certes tu avais l'exercice de code et donc ça te permettait d'assimiler, mais aussi tu avais pas mal de vidéos qui t'expliquaient justement un peu toute la philosophie du code et comment faire du code qui soit propre et la structure des bases de données, etc. Ce que tu n'as pas forcément dans toutes les formations de code aujourd'hui. Donc c'est pas mal comme ça que j'ai appris et après je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est justement, tu commences tes projets, tu commences d'une page blanche et en fait, en fonction de tes projets, bah, tu vas en fait buter sur des problèmes et puis finalement, tu vas ouvrir Google à côté et puis tu vas commencer à regarder bah, comment je fais ça en JavaScript ou comment je fais ça en PHP. Et puis petit à petit, c'est comme ça que tu te rends compte qu'il y a aussi le no-code qui existe et tu te plonges là-dedans, quoi.
Ouais, tout à fait. Mais ça effectivement, je suis tout à fait d'accord. Mais le truc, c'est que ça peut être très frustrant quand on se lance comme ça, et de toute façon, il n'y a pas non plus 36 manières d'apprendre, hein. Il faut faire, et forcément, ça demande du temps. Mais ce qui peut être très frustrant, c'est que justement, on doit se lancer dans cet apprentissage, on doit vraiment investir du temps, on doit pratiquer, on doit bien gérer notre temps entre la consommation d'informations théoriques et ensuite l'application de ces informations sur un projet concret. Et donc ça, forcément, ça prend du temps. Si on se lance là-dedans dans des études, bon, bah, ça va parce qu'on est étudiant, on n'attend pas de nous d'avoir un salaire et de subvenir aux besoins d'une famille. Mais quand on est déjà dans la vie active, par exemple, enfin, peu importe dans quelle catégorie on se trouve actuellement, mais si on veut lancer un projet, une start-up, une entreprise, bah, justement, comment on gère cette période-là où on doit se familiariser avec des nouvelles technologies, on doit apprendre des nouvelles compétences, et en même temps, bah, il faut bien manger à la fin du mois, quoi. Donc comment est-ce que toi, est-ce que t'as des périodes de ta vie comme ça où ça a été compliqué de gérer entre il faut que je trouve de l'argent, donc soit avec un métier que t'avais à plein temps, et puis du coup, comment t'as fait pour gérer la création de start-up à côté, ou au contraire, est-ce que t'as eu des situations un peu moins classiques, on va dire? Et comment tu as fait pour gérer cet équilibre entre je lance un nouveau projet qui ne me rapporte absolument rien au début et je continue à avoir des rentrées d'argent?
Bah, c'est une question hyper intéressante parce que justement, aujourd'hui, on est un peu assailli d'informations et je pense qu'on pourrait passer la journée à apprendre et à lire des choses. Et puis en plus, il suffit que tu passes un peu ton temps sur LinkedIn et pareil, tu pourrais perdre ta journée. Je pense que ce qui est assez important, c'est que justement, tu arrives à voir les moments quand tu dois être consommateur de toutes ces informations et quand tu dois apprendre le plus possible et justement arriver à trouver les moments quand tu dois être plutôt créateur. Et du coup, c'est quelque chose qui est assez difficile aujourd'hui parce que justement, moi j'ai un peu ce problème avec ça, c'est je suis inscrit à des dizaines de newsletters, donc toute la journée je suis assailli d'informations, je regarde des dizaines de blogs. Et je pense que justement, à des moments, il faut arriver à couper la poire en deux et dire « Ok, là, j'ai suffisamment appris, il faut que je me lance. » Et du coup, parfois, moi, ça m'arrive peut-être tous les 3-4 mois, je regarde ma boîte mail, je regarde toutes mes newsletters et je commence à me désabonner pour être sûr qu'en fait, dans la journée, en fait, j'ai plus le choix que de créer. Et j'ai pas justement cette espèce d'échappatoire où « Ah, tiens, j'ai une nouvelle newsletter, je vais la lire et puis je vais lire tous les articles. » Du coup, je pense que c'est assez important. Et par rapport à, justement, comme tu disais, il faut aussi qu'on gagne notre vie. Moi, la plupart, justement, de mes projets, au début de ma carrière, je les ai faits soit à côté de mes études, soit à côté de mon boulot. Typiquement, quand j'ai fait ma licence, justement, j'avais monté ma boîte de livraison d'apéritifs à domicile. C'était justement parce que je m'ennuyais un peu en cours et je voulais mettre en pratique justement tout ce que j'apprenais dans mes cours de marketing, mes cours de finance, etc. Et pareil, quand j'ai fait mon master et que sur le côté, j'ai créé l'application de livraison à domicile en France, c'était souvent à chaque fois pour, d'une part parce que je m'ennuyais, mais aussi d'autre part parce que je voulais mettre en application tout ce que j'apprenais, parce que sinon, moi, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais si j'apprends bêtement et que je mets pas en application, ben, une semaine après, j'ai oublié tout ce que j'ai appris. Et du coup, je mettais tout le temps en application. Et par exemple, à Montréal, quand je travaillais chez Ubisoft, j'ai monté la start-up à côté avant de vraiment me lancer dedans. Donc ça, c'est vraiment pour un parcours assez classique. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être freelance. Donc j'ai eu des grosses périodes, justement, quand j'ai commencé à être freelance il y a 3 ans, où pendant 2 ans, j'ai fait deux grosses missions, où j'étais à plein temps, où j'étais chez le client, où j'étais très bien payé, donc où j'ai pu mettre beaucoup d'argent de côté. Et là, typiquement, ça fait 1 an qu'on est dans le Covid, où je vais lancer Co-op et d'autres projets. Et du coup, je sais que je peux refuser des missions, en faire de temps en temps pour renflouer un peu mon compte. Mais je sais, ce qui est intéressant, c'est que je sais que j'aurai toujours du boulot et que du coup, je peux décider de pendant 3-4 mois de refuser toutes les missions et de travailler à plein temps sur mes projets ou apprendre des nouveaux trucs.
Ouais, c'est intéressant ce que tu nous dis parce que en fait on remarque que tu t'organises aussi bien de manière, enfin tu t'organises de la même manière au niveau micro que macro, c'est-à-dire que dans ta semaine tu consacres non pas justement comme tu nous as dit, tu as fait l'erreur de le faire au début, tu découpes pas en fait tes journées comme par exemple le matin pour un client et l'après-midi pour mes projets perso, mais plus ok début de la semaine ou alors le lundi et le mercredi pour un client et ensuite le reste du temps pour mes projets perso. Et en fait, tu découpes ton année, on va dire, ou en tout cas des périodes de plusieurs années de la même manière, c'est-à-dire que tu te dis, ok, je vais bosser 6 mois, 12 mois pour un client, j'aurai peut-être moins de temps pour mes projets perso, mais après ça me laisse une période de 1 an, 2 ans, où là je peux vraiment me consacrer à fond. Et au final, c'est a priori ce qui marche pour toi, et je pense que c'est ce qui marche pour beaucoup de monde. Mais ce qui est aussi difficile à mettre en place, parce qu'en fait, ça peut paraître contre-intuitif. Tu vois, si tu passes ta journée à bosser pour un client, ou si tu passes juste ta journée à bosser sur ton projet, bah, tu auras peut-être l'impression d'être moins productif que si tu avais bossé à la fois pour un client et à la fois pour un projet. Et c'est vrai que ça, c'est assez difficile à
Mais c'est
comprendre.
assez intéressant parce qu'en fait, je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps parce que justement, je voulais bosser à fond pour Coop, mais en même temps, il fallait que j'ai un peu d'argent qui rentre à la fin du mois. Donc, les 6 derniers mois, là, j'avais accepté une mission pour un ami pour 1 ou 2 jours par semaine. Mais justement, tu me dis que ça touche beaucoup de gens et je suis assez curieux de savoir comment les gens se sentent par rapport à ça, les autres freelances. Parce que moi, justement, je me disais, bah super, je travaille 1 ou 2 jours par semaine pour mon client, ça me fait un salaire à la fin du mois, et tout le reste de la semaine, j'ai du temps pour mes projets. Mais en fait, je me suis rendu compte que même si tu travailles 1 ou 2 jours par semaine pour ton client, en fait, ton cerveau, il est tout le temps un peu obnubilé par son projet. Donc, du coup, tu n'arrives pas vraiment à t'en détacher. Et puis, surtout, ton client, en fait, lui, il travaille 5 jours par semaine, et souvent, c'est une start-up, donc il est hyper passionné par son projet, donc il t'en parlera peut-être tous les jours. Et donc je trouvais ça hyper difficile même de découper la semaine en fonction de tes projets personnels et tes clients. Parce que finalement, en fait, je m'y retrouvais pas et j'avais l'impression justement que je travaillais pas assez sur mes projets personnels parce que justement, j'avais toujours les projets de mes clients en tête. Et du coup, en fait, ça fait pas longtemps que je commence à me dire, ok, tu vas vraiment découper ton année. Quand tu as besoin d'argent, tu fais 2-3 mois pour des clients et tu les fais à fond. Et le reste du temps, tu travailles sur tes projets mais tu travailles à fond.
Ouais, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à appréhender. Et moi, je me suis retrouvé plusieurs fois dans cette situation où, même s'il y avait un certain découpage avec des grosses plages horaires pour la tâche A et des grosses plages horaires pour la tâche B, où c'était vraiment pas, allez hop, une demi-heure, je fais ça en même temps que je regarde la télé, en même temps que j'essaye de monter une boîte, non, non. Mais malgré ça, bah, effectivement, comme tu dis, moi, par exemple, pendant mes études, bah, oui, le soir, on termine les cours à 18h, mais après, voilà, il y a les partiels qui arrivent, on réfléchit à ça, à ça, à ça. Pendant mon stage, bah, effectivement, la journée, tu travailles sur un projet, le soir, tu y penses encore. Donc, c'est vrai que enfin, moi, j'ai le même sentiment que toi. Je sens effectivement que c'est difficile de séparer, en fait, les différents projets sur lesquels on travaille. Après, voilà, effectivement, ça dépend quels sont les projets, parce que, comme tu le disais, un start-upper qui est passionné par sa boîte, surtout s'il a un bon feeling avec toi, bah forcément, il va peut-être pas forcément se mettre les bonnes limites, il va t'envoyer un SMS en disant machin, un truc, etc. Donc ouais, c'est assez compliqué à
Surtout si
gérer.
c'est ton ami. Et puis c'est vrai que moi, je sais pas si, peut-être que toi tu l'as aussi, mais En fait, vu qu'on a un TGM qui est assez haut par rapport à justement soit un employé lambda ou justement quelqu'un qui monte sa boîte et qui n'est même pas payé, donc quand la startup te paye un TGM assez haut pour t'avoir dans sa boîte, et ben justement tu te sens encore plus redevable, donc ça te fait un peu mal au cœur lui dire ok, tu me payes pour 1 ou 2 jours, donc je vais faire que 1 à 2 jours et puis après le reste de la semaine je vais plus te répondre. Donc il y a peut-être ça aussi, c'est que finalement tu te sens un peu obligé de répondre parce que bah, il te paye assez cher pour lui. Et du coup, tu veux être sûr qu'il en a pour son argent. Donc c'est assez compliqué de trouver le bon équilibre.
Tout à fait. Mais c'est vrai que je pense que c'est une barrière qu'on se met nous-mêmes, ou en tout cas, justement, on s'empêche nous-mêmes de se mettre une barrière. Je dis ça dans le sens où un client, si tu bosses pour lui et qu'on s'est dit dans le contrat, ok, je bosse pour toi le lundi et le mardi, et que le mercredi tu ne lui réponds pas, il va pas. Enfin voilà, je pense que ça va pas le déranger plus que ça, dans la mesure où c'était prévu dès le départ. Mais malgré ça, c'est nous psychologiquement qui arrivons pas à nous mettre des barrières et comme tu disais, enfin, on se force presque à travailler plus parce que bah forcément on a le syndrome de l'imposteur ou alors justement on sent qu'on a une certaine redevance envers le client. Donc ça, effectivement, c'est un truc qu'on doit gérer à l'intérieur, quoi.
Et puis justement, imagine tes développeurs, tu bosses le lundi, mardi et tu pushes un truc le mardi soir et en fait le mercredi il y a plein de bugs et là tu es obligé de répondre. Tu te sens mal du coup.
Ok, et donc là, on commence à cerner un peu le Grégoire développeur. On voit que le code, a priori, c'est quelque chose qui te passionne. Sinon, je pense que tu ne te serais pas lancé dans autant de projets, autant d'applications, de startups, etc. Et puis surtout, tu n'aurais pas fait ça depuis que tu as 13 ans. Qu'est-ce qui t'a fait passer du monde du code? Alors, je pense que c'est pas. Enfin, je veux dire. Quand je dis passer d'un monde à l'autre, c'est pas vraiment ça, parce que à mon avis, t'as toujours un peu un pied dans les deux mondes. Mais qu'est-ce qui t'a fait découvrir le monde du no-code et pourquoi t'es rentré dedans?
Alors, c'est une très bonne question. J'essaie de revenir un petit peu en arrière. Je pense que justement, moi, j'avais appris le code au tout début du code, quand c'était HTML. Je crois que le CSS n'existait pas vraiment encore. Donc, tu avais HTML, c'est JavaScript, PHP. C'était des choses assez classiques et assez faciles à comprendre. Et en fait, quand j'ai essayé de m'y remettre ces dernières années pour justement pouvoir lancer mes projets, je me suis rendu compte que le monde du code avait complètement changé. Donc les gens, ils parlaient de frameworks, ils parlaient de bibliothèques, il y avait justement tous ces nouveaux langages comme le Ruby, etc. Et je me disais, oh là là, mais je vais plus jamais m'en sortir en fait. Le monde du code a complètement changé et moi, je suis comme un espèce de vieux complètement à côté de la plaque qui comprend plus rien. Et du coup, en fait, quand j'ai commencé mon projet Co-op, au début, je voulais juste une landing page. J'avais testé Wix pour d'autres projets et je trouvais ça un peu nul. Je pensais que c'était un peu l'outil mainstream. Et les gens commençaient à parler de Webflow. Et donc, j'avais commencé sur Webflow. Et ce qui est assez intéressant, c'est que justement, quand j'ai commencé à faire les premières sessions de coworking, donc Co-op, j'ai pas mal de freelances qui sont venus, bah, freelance entrepreneurs. Et certains avaient vu que justement j'étais sur Webflow, c'était un peu le début de la mode de Webflow. Et donc parfois on passait l'après-midi de la session à parler de Webflow. Et puis petit à petit ils commençaient à me parler de ce terme plus global qui était le no-code. Et c'est vrai que moi en voulant pousser un peu plus loin Co-op, je me suis rendu compte que Webflow était assez limité, même si je commençais à y attacher plein de Zapier pour essayer d'avoir des bases de données avec Airtable et puis pour avoir des interactions sur la page. Et finalement, pendant ces sessions co-op, on m'a parlé de Bubble. Et je suis tombé dans Bubble. C'est assez drôle parce que je pense que j'ai commencé à utiliser Bubble 3 mois après Webflow. Mais sauf qu'il m'a fallu peut-être 2 mois avant de revenir dessus. Parce que c'était vraiment le syndrome de la page blanche, mais pire que Webflow. Parce que je sais pas si tu connais un peu Bubble, mais quand tu arrives dedans, c'est un outil dont l'interface n'est quand même pas très jolie. Et je pense que c'est un outil qui a d'abord été fait pour les développeurs plutôt que pour les designers. Donc, toutes les vidéos qu'on trouve dessus sur Internet, c'est vraiment des vidéos d'explication de workflow et assez technique. Et c'est pas du tout des belles vidéos design comme moi, comme Webflow. Du coup, j'ai mis 2 mois à vraiment m'y mettre. Et en fait, quand j'ai commencé à vraiment m'y mettre, je suis tombé complètement amoureux de cet outil jusqu'au point à ne plus le lâcher de la journée. Mais du coup, c'est un peu comme ça que je suis passé du code au no-code, c'est que j'étais vraiment moi un vieux de la vieille en code, même si ça a peut-être 20 ans, et je me suis rendu compte que le no-code pouvait me donner cette rédemption que je cherchais. Donc tout ce qui m'intéresse justement dans le code, donc tout ce qui est résolution de problèmes, création, justement, faire passer de ton idée, de ton cerveau à une interface et à des utilisateurs, et donc tout ça, le no-code me l'apportait en fait. Simplement.
Et pour toi, justement, quelles sont les compétences qu'on doit avoir pour maîtriser, on va dire, au mieux les outils no-code? Quelles sont les compétences qui sont nécessaires et justement, en quoi tes compétences de développeur, selon toi, sont utiles à ton quotidien et à tout ce que tu arrives à créer avec des outils no-code comme Bubble?
Alors, je pense que justement, ce qui est important, c'est pas mal d'avoir un cerveau de développeur assez cartésien dans la résolution de problèmes quand tu utilises des outils comme Bubble, parce que justement Bubble est basé à la fois sur les bases de données mais surtout sur les workflows. Donc c'est justement tous ceux qui font du code, c'est tout ce qui est if-then, c'est surtout basé sur ça. Et en fait, si tu connais déjà un peu si tu as déjà un peu cette manière de penser d'un développeur, de résolution de problèmes, et ben en fait les workflows Bubble, ça va devenir un jeu. Il y a beaucoup de gens justement dans mon entourage qui utilisent Bubble et qui voient ça un peu comme les Lego pour l'adulte, quoi. C'est que tu as plein de briques et en fonction justement des problèmes que tu as à résoudre sur ta page ou des infos que tu dois afficher ou non en fonction des utilisateurs, et ben c'est que des briques de if-then que tu rajoutes un peu partout. Donc si tu as déjà fait du code avant, si tu as déjà fait justement des langages qui te permettent d'utiliser des bases de données, et ben en fait c'est hyper facile parce que c'est comme si tu codais mais juste dans une interface. Donc je pense que c'est à la fois important d'avoir un peu cette philosophie du développeur, mais justement ce que je veux mettre en avant, c'est qu'il ne faut pas avoir que ça, parce que moi ce que je vois beaucoup, c'est que on a justement beaucoup de développeurs qui se mettent sur du no-code et qui n'ont pas les autres aspects. Ils veulent lancer sur leur projet, mais justement ils n'ont que l'aspect développeur et ils n'ont pas l'aspect design et expérience utilisateur, ni même de product management. Et finalement, c'est un peu triste parce qu'ils lancent leur projet sans avoir ré vraiment réfléchi au design, sans vraiment avoir réfléchi à qui sont les utilisateurs cibles. Et du coup, en fait, le projet se plante un peu et ils comprennent pas parce que pour eux, ils ont fait un peu le produit parfait qui est hyper complexe, qui est hyper personnalisé en fonction de l'utilisateur. Mais en fait, le produit ne répond à aucun vrai besoin et du coup, ils se sentent un peu lésés par rapport à ça, quoi, par rapport au no-code. Et je pense que justement, c'est peut-être un problème qu'on verra avec le no-code, c'est justement, il y a tellement de gens qui peuvent créer des produits aujourd'hui, c'est tellement facile qu'on a plein de produits qui sortent sur le marché, mais ils n'ont jamais réfléchi en amont à quelle est la proposition de valeur, quel est ton utilisateur cible, quel est le problème que tu résous. Donc je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus.
Et est-ce que tu penses justement que... Donc là, en fait, on a parlé du no-code, mais d'un point de vue d'un développeur. Est-ce que tu penses que le no-code peut aussi apporter de la valeur à des gens qui ne sont pas du tout dans le monde du développement? Alors, soit parce que ça ne les intéresse pas du tout, soit parce que ils ont déjà essayé, mais voilà, c'est quelque chose de trop complexe pour eux. Qu'est-ce que tu penses que le no-code peut apporter à des gens qui n'ont pas du tout ce type de compétences?
Justement, je pense que on l'a vu avec Webflow pour les designers. Ce que permet Webflow pour les designers, c'est justement les designers, ils peuvent monter leur propre agence et proposer la création de sites web à leurs clients sans passer par des développeurs. Et j'ai beaucoup d'amis qui font ça maintenant et il y a beaucoup d'agences Webflow qui se lancent. Donc pour les designers, je pense que c'est peut-être eux qui ont le plus à gagner de cette révolution de code parce que finalement, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils ont les compétences de design et d'expérience utilisateur et ils n'ont plus besoin d'une équipe de développeurs pour la réaliser. Je pense que, outre les designers aussi, je pense que pour les entrepreneurs, c'est une vraie révolution. Moi, je me mets plus justement dans la case entrepreneur que développeur et du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as une idée. Et tu veux la tester, tu veux la mettre en face des utilisateurs, et ben tu as juste à prendre un outil no-code, créer ton idée, et puis tu peux la lancer sur le marché. Alors qu'avant, si tu avais une idée, il faut que tu commences à faire un business plan, parce qu'il faut que tu convainques des personnes de rejoindre ton équipe, justement, et surtout des développeurs qui, eux, peuvent avoir des missions très bien payées. Et sauf qu'aujourd'hui, bah, tu n'as plus besoin de le faire grâce aux outils no-code. Donc je pense que c'est vraiment plus une révolution pour tous les gens justement qui n'étaient pas développeurs à la base. Je pense qu'il n'y a pas tous les outils qui sont accessibles à tout le monde. Je pense qu'il faut y aller par étapes. Mais je pense que justement, c'est une vraie révolution pour les gens qui sont peut-être même allergiques au code à la base.
D'accord, ok. Et justement, donc cette fois-ci, peu importe qu'on ait un profil développeur ou pas, parce qu'on voit a priori que les outils no-code peuvent nous permettre, donc avec plus ou moins de simplicité et d'aisance en fonction du background qu'on a, mais qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui vient te voir et qui te dit, voilà, Grégoire, j'ai une idée, c'est une idée révolutionnaire, alors enfin, on va rester sur le « j'ai une idée », ce serait quoi pour toi les premières étapes pour lancer sa startup à partir du moment où on a une idée?
Eh bien justement, c'est une très bonne question. Au second confinement, j'avais décidé de lancer une newsletter en product management pour justement un peu vulgariser les différentes théories du product management. Parce que ce que je voyais à la fois sur les Slack de no-code ou même dans ma communauté, c'est que les gens se lançaient dans le no-code, créaient des produits sans vraiment se poser aucune question en amont sur qui est l'utilisateur cible, quelle est ta proposition de valeur, etc. Donc je pense que avant de te lancer à corps perdu sur un outil no-code et lancer ton produit, il y a vraiment certaines questions que tu dois te poser avant. Genre, je crois que c'est Shubham qui en parlait. Je pense que souvent, tu penses à une solution, tu penses que ça va plaire à tout le monde, et tu montes ton produit, tu te rends compte que ça plaît à personne. Là, l'idée, c'est que justement, en product management, c'est ce qu'on apprend, c'est que tu pars plutôt du problème, même si tu as quand même ton idée de solution en tête, tu pars du problème, tu regardes qui ça peut toucher, et puis en fait, tu co-construis ton produit avec tes utilisateurs. Donc l'idée, peut-être le premier conseil que je donnerais, c'est justement, utilise l'outil no-code le plus simple pour toi, pour d'abord lancer une landing page, où tu vas parler de ta solution, du problème que tu essaies de résoudre, et tu fais venir des gens sur cette landing page, tu regardes comment les gens accrochent, et tu vois s'il y a un vrai marché pour ton produit. Et en fait, petit à petit, tu commences à construire et à approfondir ton produit avec tes premiers utilisateurs.
Et comment tu t'y prendrais, toi, donc à partir du moment où tu as lancé ta landing page, donc une page web classique hein, sur laquelle les futurs utilisateurs arrivent, et le but justement, c'est de les convertir en utilisateurs. Comment tu ferais à partir de cette page-là pour justement, tu nous dis, co-créer ton produit ou ton service avec eux?
Alors, je vais prendre l'exemple de Co-op parce que c'est assez récent et c'est le plus simple que j'ai. Justement, comme je te disais, moi, je voulais vraiment... à la base, ma solution, c'était justement, on va faire des sessions de coworking chez l'habitant. Comme ça, on n'est pas beaucoup, on est dans un endroit chaleureux. Donc, en fait, ça va pousser l'émulation entre les coworkers. Mais bon, j'avais cette idée un peu folle dans ma tête et je ne savais pas du tout si les gens allaient vouloir faire ça. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que justement, j'ai fait cette landing page sur Webflow. J'ai mis une date pour la première session de coworking et en fait, je l'ai annoncé sur LinkedIn. Et du coup, les gens sont inscrits. Et c'est comme ça que j'ai pu lancer Co-op en fait. En une semaine, j'avais fait mon site, j'avais annoncé ma première session le vendredi d'après, et j'ai eu 7 personnes qui sont venues à la session de coworking. Et en fait, à partir de là, c'est à partir de ce jour-là que tu commences à créer ta communauté, à la fois pour tous les gens à qui j'ai parlé des sessions, donc ça les intéressait, donc ils sont inscrits à Co-op, mais aussi tous les gens qui participent à la session. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'était premiers utilisateurs. Et moi qui étais moi-même dans la session, je pouvais leur poser plein de questions sur comment ils travaillent d'habitude, est-ce qu'ils vont dans des espaces de coworking, qu'est-ce qu'ils pensent de cette idée de co-op. Et après justement, on a tellement d'outils aujourd'hui qui nous permettent de lancer des boîtes et lancer des produits et être toujours en contact avec nos utilisateurs. Une des façons les plus simples, c'est justement soit d'ouvrir un Slack pour ta boîte ou pour ton produit, ou un Discord, et en fait inviter tous tes utilisateurs dessus. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pour Co-op, mais c'est ce qu'on avait fait déjà à l'époque, en 2015, quand on avait monté notre startup à Montréal. L'idée, c'est que tu invites tous tes early adopters sur le Slack, ou sur le Discord, ou sur un autre outil, et en fait, tu leur permets déjà, d'une part, de discuter entre eux, mais aussi, toi, dès que tu as une idée pour ton produit, une idée d'amélioration, ou tu ne sais pas vraiment dans quelle direction tu vas aller, en fait, c'est hyper simple parce que tu leur poses toutes les questions directement sur le Slack.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que du coup, tu crées directement un lien entre toi et les utilisateurs, et en plus un lien entre les utilisateurs eux-mêmes, et ce qui fait qu'effectivement, toi, tu es un peu, alors, enfin, j'allais dire par au-dessus, mais en gros, tu vois justement toute cette émulsion qui se fait autour de ton produit ou ton service, et toi, tu peux être là à interagir, et justement, tu peux soit proposer, soit récupérer des nouvelles idées de features, d'améliorations pour ton service, quoi.
Il y en a beaucoup même qui font des groupes Facebook où justement ils permettent aux gens de discuter entre eux, de faire des posts quand justement ils ont des nouvelles annonces à faire sur le produit, ou justement des questions, des questionnaires envoyés sur comment vous voyez Co-op évoluer dans les prochaines années. En fait, c'est hyper important parce que tu co-crées tout avec tes utilisateurs et c'est ça le mieux en fait. Là, je viens d'y penser, mais... Une des premières fois que j'ai fait ça, c'était justement chez Ubisoft où j'avais travaillé sur la franchise Rainbow Six. Et ils étaient un peu dans la merde à l'époque parce qu'ils avaient annoncé le jeu 4 ans auparavant et finalement ils n'avaient rien sorti parce qu'il y avait des problèmes en interne, ils avaient changé 3 fois d'équipe. Et là ils s'étaient dit merde, il nous reste 1 an pour le sortir, sinon on va être la risée de tout le monde. Et c'est quand on commençait à parler d'une startup et du coup ils m'avaient pris dans leur équipe. Et ce qu'on faisait, c'était vraiment la base d'une startup, c'est qu'ils faisaient une build du jeu toutes les semaines. Et donc au début, c'était juste des carrés, des mecs en carré avec des flingues qui se tiraient dessus. Et toutes les semaines, on organisait des tournois en interne. Moi, je récupérais tout le feedback des joueurs qui avaient fait le tournoi en interne. On regardait tout le tracking des gens sur les maps du jeu de Rainbow Six. Et en fait, toutes les semaines, je faisais des focus groups. Et je leur faisais un rapport de ok, cette build, qu'est-ce qu'on en pensait les gens, comment ils voient évoluer les choses. Et en fait, je donnais ça au directeur du jeu, et toutes les semaines, avec ses équipes de développeurs, en fait, ils amenaient le développement du jeu d'un côté ou de l'autre en fonction des feedbacks des différents joueurs. Donc, je pense que c'est ça le plus important, et après ça, en fait, on a réussi à sortir le jeu en moins d'une année. Et c'est devenu un des jeux les plus lucratifs pour Ubisoft ces dernières années. Donc je pense que le plus important, c'est vraiment en fait faites rentrer vos utilisateurs le plus tôt possible dans la création de votre boîte ou votre produit, même si vous n'avez rien du tout au début. Je pense que c'est le plus important, ouais.
Ouais, comme effectivement, parce que le premier exemple que tu as donné avec Co-op, là, en fait, c'était plus... Tu n'avais pas besoin de créer un produit, tu n'avais pas besoin de passer 1 an à créer un produit, contrairement à chez Ubisoft, où là, il fallait créer quelque chose. Tu ne pouvais pas te permettre de dire, tiens, donnez-moi votre email, et puis demain, on organise une session de jeu avec le jeu qui sera né comme ça, comme par magie. Mais comment... Donc là, effectivement, tu nous dis qu'il faut directement créer un lien avec ses utilisateurs, mais ces utilisateurs, il faut les trouver. Quelle serait ta stratégie? Alors peut-être que tu as déjà, donc tu as forcément une liste d'emails, une communauté sur LinkedIn, etc. etc. Quels seraient, toi, les conseils que tu donnerais à quelqu'un, ou en tout cas les stratégies que tu adopterais si tu devais construire justement une communauté?
Ouais, alors c'est une question assez compliquée parce que ça dépend complètement du produit que tu fais. Si c'est du B2C, donc pour les consommateurs, c'est assez mainstream, ou si c'est pour du B2B, c'est pas du tout les mêmes stratégies. Peut-être un des conseils qu'on donne, un des conseils les plus connus qu'on donne aux entrepreneurs, c'est justement construisez une boîte ou un produit dans des choses que vous savez faire, ou en tout cas dans un milieu que vous connaissez déjà. Donc typiquement, moi j'ai lancé Co-op, c'était dans le milieu des freelances, donc je connaissais déjà pas mal de freelances. Et quand j'ai lancé mes premières sessions, j'ai juste eu à écrire sur LinkedIn. Et vu que la plupart de mon réseau c'était des freelances, ça a pris assez rapidement. Et puis c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de startups, en fait des gens ont d'abord créé des communautés avant de lancer leurs produits. Donc on le voit, c'est facile, on le voit avec les influenceurs sur les réseaux sociaux, où d'abord ils se créent une marque personnelle, et après, ils profitent de cette marque personnelle pour lancer leur produit. Donc, c'est peut-être, et c'est un conseil que j'ai déjà donné justement à des jeunes entrepreneurs, c'est que même si ton produit va mettre 6 mois, 1 an à se construire, peut-être commence justement à construire soit ta marque personnelle ou soit justement ta marque d'entreprise avant même la sortie de ton produit, pour commencer à avoir une communauté autour de cette problématique. C'est peut-être ça qui est important, comme tu dis, si tu mets 1 an à sortir ton produit, peut-être que tu n'auras rien à montrer au début, mais justement, ton produit doit répondre à une problématique. Donc il y a beaucoup de gens qui font ça aussi aujourd'hui, c'est que typiquement, tu pourrais carrément lancer une newsletter sur la problématique. Moi, pour Co-op, ça aurait pu être une newsletter sur bah, le futur du travail ou quels sont les meilleurs espaces de coworking en France et en Navarre. Et puis au bout d'un an, avec toute la communauté que j'aurais créée autour de ça, bah, lancer le produit de co-op. Vous n'aimez pas les espaces de coworking que vous avez aujourd'hui, bah, moi je vous propose une alternative. Donc en fait, je pense que le plus important aujourd'hui, on le voit carrément et on le voit avec Shubham que tu as interviewé il y a quelques semaines, c'est créer sa marque personnelle ou en tout cas discuter autour de la problématique que tu essaies de résoudre. Et en plus, ce qui est hyper intéressant avec ça, c'est que pendant que tu construis ton produit pour répondre à cette problématique, tu as tous les feedbacks utilisateurs concernant cette problématique.
Ça permet justement de co-créer avec ta communauté qui grandit. Et effectivement, alors c'est un truc qui prend du temps, hein, et moi je l'ai bien vu avec la chaîne YouTube, mais en fait, dans la mesure où tu apportes une solution, déjà, enfin, c'est pas forcément la solution que tu vas apporter, enfin, c'est pas la solution que tu vas apporter au même problème que le problème que tu vas essayer de résoudre avec ta boîte, mais tu apportes une solution avec du contenu gratuit, ou en tout cas la plupart de ce contenu est gratuit, et donc forcément à partir du moment où tu résous un problème, bah avec un petit peu d'optimisation, si on parle de SEO, etc., bah, tu vas faire venir des gens, et c'est comme ça que la communauté va grossir.
Et justement, on le voit avec ta chaîne YouTube, quand on regarde, c'est que tu réponds à plein de problématiques très différentes pour les freelances, pour les développeurs, etc. Donc ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à la fois c'est quelque chose qui te passionne, mais en plus, à force de répondre à ces problématiques et avoir des feedbacks de tes followers, finalement, tu vas commencer à avoir justement des idées de solutions que tu pourrais leur apporter plus tard. Donc je pense peut-être que justement le premier conseil, c'est que dès que tu penses à une solution ou tu as un problème qui te chagrine et tu veux monter une boîte autour de ça, c'est crie-le sur tous les toits et commence à vraiment discuter de cette problématique avec ton entourage. Après, c'est vrai qu'il y a plein d'autres aspects plus classiques où tu parlais du SEO, mais on peut aussi commencer à faire des pubs sur Facebook, sur Instagram ou même des pubs sur Google pour faire venir artificiellement des gens sur ton produit dans ta communauté. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tous les différents réseaux sociaux, c'est assez facile de commencer une communauté autour d'une problématique.
Ouais, carrément. Ok. Et du coup, quelle est ta vision, toi, de l'entrepreneuriat? Parce qu'on voit que tu as monté pas mal de boîtes. Est-ce que c'était des boîtes qui sont nées et ensuite qui sont mortes petit à petit, qui se sont essoufflées? Et en fait, là, tu continues à en recréer une parce que tu veux qu'il y en ait une qui grossisse. Enfin, est-ce que du coup, tu as un mindset, on va dire, d'entrepreneur, de business empire, ou plutôt justement de maker qui crée des petits projets à droite à gauche, qui grossissent, mais que tu peux plus ou moins gérer tout seul, ou en tout cas avec une petite équipe?
Bah ouais, c'est une question très intéressante parce que je pense que c'est une question que je me pose pas mal en ce moment. J'ai cette problématique où je suis hyper curieux, il y a plein de choses qui m'intéressent, donc j'ai toujours envie de monter une boîte en fonction d'une problématique ou d'une solution qui m'intéresse à un moment précis. Et en fait, un an, deux ans après, il y a une autre grosse problématique qui m'intéresse et donc j'ai envie de monter une autre boîte par rapport à ça. Donc j'ai un peu ce syndrome qu'il faudrait que j'arrive à soigner. Parce que justement, à chaque fois, j'ai des idées assez intéressantes pour moi et je ne vais jamais jusqu'au bout. Donc justement, là, avec Co-op, j'aimerais bien arriver à dire non à toutes les propositions de mission que j'ai tous les jours et me consacrer à fond à Co-op et vraiment m'y mettre à fond et me dire « Ok, là, je donne tout pendant un an sur ce projet. Si ça ne marche pas, je n'aurai pas de regrets parce que j'aurai tout donné. Plutôt que... me dire, ah, je vais bosser un peu dessus et puis je vais quand même accepter une mission parce qu'il me faut un peu d'argent. Ah, et puis je vais faire ce projet de newsletter parce que ça m'intéresse. Il faut vraiment que j'aille à l'encontre de ma personnalité et que je me dise, ok, je bosse à fond sur une idée de startup, je la fais à fond et puis si ça coule, ben j'aurai pas de regrets. Donc je pense que c'est un travail que je fais en ce moment sur moi-même.
Parfait, bah, je pense qu'on a une bonne vision là, de ce que tu fais aujourd'hui et on a un bon retour d'expérience de quelqu'un qui a monté plusieurs petites boîtes qui ont quand même plus ou moins bien marché. Hein. Dernière question avant de conclure sur cet épisode, est-ce que tu aurais une ressource, ça peut être un livre, je sais pas moi, un film, une série, peu importe, quelque chose qui t'a inspiré dans ta journée entrepreneuriale ou peut-être au niveau personnel et que tu aimerais partager aux auditeurs?
Ouais, alors j'ai Vu que je suis à fond dans le no-code en ce moment, j'ai pas mal de newsletters sur le no-code qui sont assez intéressantes et assez courtes à lire. Donc il y a celle de contournement qui est vraiment pas mal, d'Erwan et Alexis. Il y a No Code Station aussi qui est vraiment cool et une toute nouvelle qui s'appelle Coach MVP. Donc ça, c'est vraiment pour les gens qui font du Bubble, qui est faite par Charles Edouard, où il donne plein de petits tips sur Bubble. Hyper intéressant. Et après, vu que moi j'ai plus un background entrepreneurial et de product management, je conseillerais à tout le monde et même aux développeurs, même s'ils veulent pas l'entendre et qui s'en foutent un peu du product management. Mais justement, il y a un livre en product management qui est assez facile à lire et qui est hyper passionnant, qui s'appelle The Product Book, qui fait peut-être 200, 300 pages et qui nous apprend un peu tout sur justement le product management et comment lancer son produit avec succès. Donc ça, c'est vraiment un livre que je conseille. Et après, moi, mon livre un peu qui est sur ma table de chevet, je pense depuis maintenant 6-7 ans, ça s'appelle The Value Proposition Design. Et c'est un livre justement sur, tu as une super idée de produit, tu as une super solution en tête, comment tu fais pour l'amener au monde avec le plus de chances de succès possible. Donc c'est un peu ça mes ressources.
Ok, trop bien, bah merci parce que dans les bouquins que tu as cités, la plupart je les connais pas, donc je pense que ça va aider pas mal de monde. Top. Bah en tout cas, je mettrai tous les liens de ces bouquins et des newsletters dans les notes de cet épisode. Merci à toi Grégoire, c'est un grand plaisir d'échanger avec toi, et puis peut-être à bientôt, hein, parce que là on voit qu'il y a pas mal de projets en cours, et puis des projets assez naissants, on voit qu'il y a pas mal de potentiel. Donc pourquoi pas, à bientôt hein, dans un deuxième épisode pour voir comment ça évolue.
Ouais, complètement. Bah, merci beaucoup à toi, Quentin. J'étais très content de discuter avec toi et puis j'espère qu'on pourra se voir bientôt.
Avec plaisir, merci à toi, salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis avec une note et un commentaire, ou même à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux ou à votre entourage qui pourrait être intéressé. Ça nous aide énormément à nous faire connaître et à partager ces retours d'expérience à davantage de monde. En tout cas, merci pour votre écoute et moi je vous dis à la semaine prochaine.